Mon projet, c'est, étant donné la démocratie de chaos, là, dont on vient d'avoir une brillante description, mon idée, c'est plutôt d'essayer d'y mettre un peu d'ordre, si c'est possible, en essayant de se centrer sur un thème qui est celui de l'égalité ou de l'égalitarisme, comme on veut. Et l'égalité, évidemment, c'est un principe de la République, enfin de la démocratie, l'égalité en droit, c'est évident. Mais comment est-ce qu'on est arrivé, si vous voulez, à avoir un effet de désorganisation et un effet de masque devant la réalité de la société? Étant donné que la pensée unique, c'est essentiellement ce qui fait barrage à la prise en compte du réel, en imposant des représentations a priori dont les effets d'exclusion, donc de censure, ont été indiqués immédiatement par Jean-Pierre Le Goff et aussi par Alain Finkielkraut. Alors, je dirais qu'il faut distinguer la démocratie de fantasme et la démocratie de visée, si vous voulez. Le fantasme ne se rapporte pas à la réalité par définition, mais il se rapporte à quelque chose qui devrait être, si vous voulez. Alors que la démocratie de visée, elle n'est pas là, on la poursuit. Mais alors, ce devrait être égalitaire, démocratique, et je crois une sorte de chape, enfin, qui pèse sur les mentalités actuelles. Il y a donc une sorte de, il y a des valorisations artificielles, si vous voulez, qui font écran. Alors, en distinguant l'égalité idéale de l'égalité fantasme, je vais essayer de décrire un peu le paysage en trois points. D'abord, il y a un appauvrissement de l'image du monde, de la représentation du monde, si vous voulez, par l'effet de cette chape de plomb, enfin de cette grille plus exactement réductrice. Le deuxième point, c'est la dévaluation des médiations, si vous voulez, qui constituent la société. Et le troisième, c'est évidemment le retour du social quand même, mais sous une forme qui est, on peut dire, dans beaucoup de dimensions pathologiques. Appauvrissement de l'image du monde. Si l'égalité est ce qui devrait être, ce qui n'est pas, bien sûr, mais ce qui devrait être, et ce à travers quoi il faut tout considérer. On a en fait une déréalisation du monde et une certaine haine, quoi qu'on dise, des différences. Le monde se trouve déréalisé, c'est-à-dire que tout se définit, tous les éléments de la société se définissent par essentiellement ou la domination ou la discrimination. Le problème, ce n'est pas de savoir de quoi on parle, c'est de savoir où c'est placé dans une certaine échelle des représentations de la société. Il y a un classement. Notre société voit les choses d'après le classement. Et quand on parle de l'homosexualité, par exemple, ce sera la discrimination des homosexuels qui viendra comme manière d'en parler. Discrimination de l'islam, discrimination d'eux, etc. Alors on réduit, si vous voulez, ce dont on parle à cette. Alors de l'autre côté, évidemment, il y a les privilèges d'eux, etc. Mais c'est essentiellement, d'ailleurs, dans les privilèges, on en parle moins facilement qu'on parle des victimes et de la discrimination. Et alors l'objet finit par disparaître. Moi, une des choses qui m'ont le plus frappé avec les débats sur le mariage pour tous, disons sur le mariage homosexuel, parce que l'autre mariage n'est pas en cause, ces discussions, c'est plus on parle de la discrimination homosexuelle, moins on parle de l'homosexualité. On n'a rien à dire sur l'homosexualité. Il y a eu une des cultures où l'homosexuel était un chaman, par exemple. Enfin, il était marginalisé et utile, si vous voulez, quoi. On a vu Gide nous vendre dans le corridor, l'homosexualité initiatique, socratique, si vous voulez. Bon, c'est pour pour entrer dans la vie, c'est bien, ça vaut mieux que d'aller au bordel. Bon, il a peut-être raison ou tort, si vous voulez. En tout cas, il disait quelque chose sur l'homosexualité qu'on pouvait discuter. Tournier parle de l'oncle scandaleux et de sa place dans les familles. C'est quelque chose sur l'homosexualité. Je comprends, je connais, je peux parler. Même Foucault, in extremis, parlait de l'homosexualité comme invention de nouveaux plaisirs, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, etc. L'homosexualité bordélique, il faut dire les choses comme elles sont, mais c'est clair, il le dit clairement. Et Ribon, son biographe officiel, le dit encore plus clairement. Mais tout ça, c'est des choses dont on peut parler. Mais ça, on est tombé dans le silence sur l'objet, et pourtant on n'a parlé que de ça. Il y a une déréalisation du langage, pas du réel, qui est quelque chose de faramineux, qui est tout à fait étonnant. D'ailleurs, de la même manière, les mœurs des Roms, vous ne savez rien, mais la discrimination anti-Roms, vous êtes au courant comme moi. L'islam, on ne connaît pas beaucoup, mais l'islamophobie, ça, vous êtes obligé de la connaître, etc. Tout devient. Alors, il y a les offenses à l'égalité qui finissent par définir la société. C'est ce que j'appelle la déréalisation de l'image de la société. D'où la curiosité de la demande de reconnaissance. On est toujours en homosexualité. Il demande la reconnaissance. Moi, je m'interroge parce que il demande à être reconnu. Je dirais j'adhère. Enfin, du moins, je comprends, si vous voulez. Bon, les couples homosexuels existent. Hein, bon, j'en ai rencontré. Bon, après, si vous voulez, mais être reconnu comme quoi, comme ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire un couple comme les autres. Alors là, on entre dans un truc un peu curieux. Moi, ma conclusion actuelle, c'est que les gens qui réclament ça, c'est parce qu'ils n'assument pas leur homosexualité, tout simplement. Et ils veulent qu'elle soit rapportée à quelque chose d'autre, et l'égalité, la demande d'égalité, permet de fuir la réalité. Dans le mécanisme paraît extrêmement clair. Enfin bon, moi, j'ai compris ça quand j'ai rencontré des homosexuels heureux en couple et qui ne réclamaient rien. Et ça, ça m'a ouvert les yeux sur ceux qui réclament et qui ont probablement des problèmes qu'ils ne veulent pas dire, si vous voulez. Évidemment, on détourne l'attention des considérations du spécifique, on réclame de la reconnaissance. Bon, alors, si vous voulez, la discrimination finit par vous faire une identité en définitive quand on n'en a pas, quoi. Et détruire l'identité réelle et en faire une autre, si vous voulez. C'est à peu près, moi, c'est le mécanisme que je vois là-dedans. Et ça, c'est l'égalité qui est vraiment l'égalité fantasme qui devrait être, qui est vraiment le médium. Alors, mon deuxième point, c'est les dissolutions des médiations. Cette société abstraite, si vous voulez, cette société de l'égalité. Tiens, je vais citer Peggy pour faire plaisir à Alain, et encore la note conjointe, où il dit que c'est comme si le calendrier se mettait à être l'année, si vous voulez. Alors, c'est-à-dire que la manière de classer, si vous voulez, les jours, etc., remplace le temps, si vous voulez. C'est un peu le même phénomène de réduction par l'abstraction. Alors, évidemment, la censure porte sur les médiations qui permettent de définir positivement des objets. Évidemment, la censure des censures, c'est la censure des identités. Alors, la identité... n'en parlons pas. Il y en a. Théoriquement, si le monde n'est fait que d'égalité et d'inégalité, il n'y a pas d'identité partielle. Ça ne peut être que pervers. Enfin, c'est tout à fait évident. Alors, on a l'appartenance au monde, l'identité nationale étant évidemment, comme vous en doutez, l'identité la plus perverse, mais c'est une des nombreuses. Enfin, de la même manière que l'institution, d'une manière générale, est, et ça c'est le travail de 68, la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire qu'au fond, il s'agit, les, institution, c'est quelque... C'est, j'allais dire une institution, mais c'est une organisation qui vous dit dans quel cadre vous êtes, donc a priori, ce que vous devez être ou ce que vous pouvez faire et ne pas faire, si vous voulez. Il y a un a priori où on s'inscrit quand on entre dans une institution qui s'appelle l'école, la famille, l'église, que sais-je encore, l'État, bien sûr. Ce sont des institutions. Justement, le problème, c'est qu'il s'agit de réduire l'institution, puisqu'il ne peut pas y avoir, pour une société d'individus égaux, d'institutions. Ce n'est pas possible. Donc, on a des arrangements, en définitive, conjoncturels, qui permettent de vivre. Et Monsieur Tsingly, sociologue de Sorbonne, je crois, dit le mariage n'est plus une institution. Ça, c'est quelque chose de fondamental, si vous voulez. On peut remplacer le mariage par beaucoup d'autres choses. Donc plus d'institutions. Et il y a une autre tendance qu'on voit très clairement, c'est une bouquet émissarisation de l'institution des institutions qui est l'État. Enfin, l'institution, disait Oriou, il y a une institution des institutions qui est l'État. Et bien, l'institution des institutions, logiquement, elle a évidemment mauvaise presse et elle est bouc émissarisée. Si vous voulez, moi je m'amuse à noter dans votre presse, enfin vous pourrez en rajouter, mensonge d'État, reconnaissance d'État, affaire d'État, on pourrait allonger la liste, si vous voulez. C'est vraiment le mur des injures, c'est pas le mur des corps, c'est le mur des injures où on se défoule de tout ce qui ne va pas. Donc l'institution est coupable, si vous voulez. Et d'un certain côté, ça donne bizarrement une étatisation du social, puisque une société d'égalité individuelle ne peut se concevoir que selon son fantasme, si vous voulez, que comme une bonne société, etc. Il faut que ça arrive tout de même. Et l'État étant considéré comme responsable de tout par son présent et aussi par son passé, ça va de soi. Et l'inégalité étant illégitime, il se trouve qu'on a un État coupé des fonctionnements sociaux qui requit de réaliser le fantasme. Alors bon, évidemment, on a une distance absolument infranchissable entre l'être et le devoir être, et une irresponsabilisation collective de la société. Ça, c'est quand même quelque chose tout à fait évident. Il y a une pathologie. Là, je crois qu'il y a une pathologie française, incontestablement, cette espèce de renvoi toujours à l'État des responsabilités. Aucun des problèmes qu'on peut évoquer, je n'en suis responsable. C'est toujours l'institution étatique qui en est responsable. Donc les idéaux sont complètement séparés du monde. Et il y a une tendance, alors là évidemment on doit parler de la politique qui devenait morale, oui, mais la morale devient du droit. Il y a une juridification du monde en même temps que sa moralisation, par exemple. Moi, je suis pour parler des mémoires du passé, enfin des problèmes mémoriaux qui nous préoccupent tellement, on est passé de la nécessité de se souvenir à l'écriture obligatoire et étatique. Enfin, Madame Taubira s'est illustrée par une loi qui porte son nom avant qu'elle en conçoive une autre. Enfin, c'était une loi qui copiait une loi dont un sénateur communiste, à laquelle un sénateur communiste, grand défenseur des libertés, n'est-ce pas, avait donné son nom, naguère, on lui avait donné un os à ronger, en réalité, au moment où on prenait des tournois de la rigueur. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, il y a une incrimination du global étatique, si vous voulez, qui fait qu'on se détache. Alors, évidemment, le social et égalitaire ne se laisse pas congédié comme ça, il revient. Et l'inégalité, elle est présente, tout le monde le sait qu'il y a de l'inégalité quand même. Il ne devrait pas y en avoir, mais il y en a beaucoup. Alors, là, il y a des problèmes qui... Je dirais que l'égalité, elle est plus dénoncée qu'analysée. C'est ça le point. Si on compare deux sociologies de l'éducation, celle de Boudon et celle de Bourdieu, celle de Boudon, l'inégalité des chances, pour moi, est un grand livre de sociologie que je regarde de temps en temps, qui montre comment l'inégalité se construit à travers les comportements, à travers aussi des organisations qui ne laissent pas à certaines couches socioculturelles, qui ne les mettent pas dans des conditions telles qu'elles puissent jouer leur carte, si vous voulez, et progresser dans non pas l'ascenseur social, mais l'escalier social progressif. C'est curieux d'ailleurs. Ascenseur social, ça veut dire qu'on grimpe, ça grimpe tout seul, si vous voulez. J'y pense tout d'un coup là. D'où ma réticence à employer ce mot. Je préfère escalier social. Je demande qu'on abolisse l'ascenseur social ici. Bon, d'accord, c'est un aparté tout à fait improvisé. Voilà. Bon, alors c'est un mécanisme de l'égalité, alors que Bourdieu, si vous voulez, c'est l'inégalité. Les mécanismes ne sont pas analysés, ou plutôt, il est marqué, on indique toujours qu'il y a une fatalité qui rend l'inégalité. Elle est globale et elle se manifeste dans le concret, effectivement, par des inégalités culturelles, etc., etc. Mais elle n'est pas, on ne sait pas réellement comment elle se fabrique, si vous voulez. Il y a aussi une autre conséquence là. Il y a des mécanismes qui sont mal analysés, à mon avis. Et l'autre conséquence, c'est que les particularités qui existent, quoi qu'on fasse, au fond, je l'ai déjà dit d'un certain côté, s'identifie par les griefs. Et le problème de l'intégration, c'est ça. C'est que notre culture fait des identités griefs. C'est ce qu'ils ont. Alors, avec la perte de confiance en soi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de confiance dans leur propre culture d'origine, sans pouvoir s'en détacher et aller dans l'autre culture, dont ils considèrent qu'ils sont les exclus, si vous voulez. Et ces identités griefs devant lesquelles nous sommes créent des problèmes, je ne dis pas insolubles, mais qui deviennent extrêmement, extrêmement difficiles difficiles à résoudre. À partir du moment où on est réduit à une position inférieure, on ne peut que se lamenter et emmerder les autres et fantasmer des vengeances. Voilà, c'est tout. Alors, je terminerai simplement en disant d'un mot qu'au fond, l'inégalité, il faut pas partir de l'égalité qui doit être, il faut partir de l'inégalité qui existe. Et qui c'est l'inégalité ? C'est pas gnagnagna, c'est pas la culture nationale qui est hiérarchique, c'est pas, je sais pas quoi moi, les couches sociales, etc. C'est nous, l'inégalité. Moi, je sais très bien comment je vais pas vous raconter ma vie, comment je participe de la fabrication de l'inégalité, comme nous tous, si vous voulez. Et alors, à partir de là, on peut commencer à parler de l'égalité comme idéal, avec la possibilité d'y changer quelque chose. L'égalité est une tâche, pour en finir, mais il faut sortir de l'égalité comme fantasme, si vous voulez. Alors, donc, tâche, ça veut dire qu'elle réclame une détermination. Il n'y a pas d'égalité en général. Je dirais même pas, en fait, détermination de l'égalité de, si vous voulez, enfin, égalité en droit, mais en droit. Et je pense que c'est une égalité en. On est toujours égal en quelque chose. C'est pas la même chose à l'église, par exemple, qu'au bureau de vote, si vous voulez. Et c'est pas la même chose au bureau de vote qu'à l'école, si vous voulez. Alors, on est égal ou inégal en fonction d'une situation instituée, si vous voulez, dans le cadre de laquelle nous avons à travailler. Allez.